jour, de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Chantal Laureau.
Bonjour. Le 20 juillet 1969, le monde entier a retenu son souffle pour assister par écran télé interposé au premier pas de l'homme sur la Lune. L'Américain Neil Armstrong est entré ce jour-là dans l'histoire. Étrangement, la conquête spatiale va ensuite susciter beaucoup moins d'intérêt malgré les prouesses technologiques des fusées, sondes, télescopes ou autres robots. Aujourd'hui, l'engouement pour l'espace est de retour. On l'a mesuré à l'incroyable popularité de l'astronaute français Thomas Pesquet qui a fait vivre sur les réseaux sociaux, ces 6 mois à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Mais ce qui a tout changé, c'est le New Space, le nouvel âge spatial incarné par Elon Musk ou Jeff Bezos. Du tourisme spatial à la colonisation de la planète Mars, les milliardaires de la Silicon Valley multiplient les initiatives et fourmillent de projets. Alors business, philanthropie, mégalomanie, ces nouveaux acteurs venus du net font-ils de la concurrence à l'aérospatiale française et aux fusées Ariane? Qui va se partager dans les années qui viennent le marché florissant des satellites? Quelles seront les prochaines étapes de la conquête spatiale? On en débat dans un instant avec nos invités.
Our future is in space.
La première étape de cette course à l'espace va être remportée par l'Union soviétique. Le 4 octobre 1957, la fusée Semyorka met Sputnik, le premier satellite artificiel, en orbite.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Ok, équipe 1, vous êtes prêts pour l'alunissage. C'est parti pour la Lune.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Imaginez monter à bord d'une fusée, destination Mars. Des vols réguliers qui permettraient à terme de coloniser la planète rouge, et ce dès 2022. C'est la dernière idée folle de l'inventeur milliardaire Elon Musk, qui rêve de conquête spatiale pour tous.
Il s'agit de croire au futur et de se dire qu'il sera meilleur que le passé. Et il n'y a rien de plus excitant que de s'imaginer là-haut, parmi les étoiles.
Propulseur auxiliaire et moteur d'impulsion à disposition.
Système d'armement et bouclier en attente, monsieur.
Le contrôle du dock est prêt, capitaine.
En avant toutes.
À vos ordres, capitaine.
Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Jean-Yves Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et vous avez préfacé le livre paru au Cherche Midi « Kourou, 5e Nord, port spatial de l'Europe », un livre écrit par Carole Barthélémy, qui est avec nous en duplex de France Bleu Occitanie à Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous.
Également à nos côtés en studio, Jacques Arnoux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et historien des sciences et vous publiez « Oubliez la Terre ?», la conquête spatiale 2.0 aux éditions Le Pommier. Jean-Yves Le Gall, votre agenda est très chargé et vous ne pourrez pas passer toute l'heure avec nous, donc je vais donc commencer l'émission avec vous. Est-ce que SpaceX, la société créée par Elon Musk, est une concurrente sérieuse pour Arianespace qui commercialise depuis 1980 les lancements des fusées Ariane et la mise en orbite des satellites?
SpaceX, c'est un concurrent de plus. Cela dit, depuis qu'existe le succès d'Ariane, premier lancement 24 décembre 1979, on en a vu d'autres, je dirais, puisque au début de la vie d'Ariane, la concurrence, c'était essentiellement les lanceurs américains. Ensuite, il y a eu les lanceurs russes après la chute de l'Union soviétique. Et puis aujourd'hui, il y a des lanceurs venus donc de ce que vous avez appelé le New Space. Mais ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois, l'Europe sait se retrouver, réagir et nous avons réagi face à SpaceX.
Pour vous, le lancement réussi en février de la fusée Falcon Heavy qui a mis en orbite la Tesla, la fameuse Tesla rouge d'Elon Musk, sa voiture électrique personnelle avec un mannequin en combinaison d'astronaute au volant, c'est une prouesse technologique ou c'est juste un superbe coup de com'?
Je dirais que c'est d'abord une prouesse médiatique et c'est une prouesse médiatique qui ne peut finalement exister qu'aux États-Unis. L'un de mes collègues responsables de l'industrie spatiale européenne disait que si on avait fait la même chose en Europe, envoyé une décapotable dans l'espace avec un mannequin, on aurait été la risée du monde entier. Bon, aux États-Unis, il se trouve que ça marche bien. Au-delà, la fusée Falcon Heavy a fonctionné, bien sûr, mais finalement, on en a beaucoup plus parlé parce qu'il y avait la décapotable et le mannequin que parce que la fusée a marché en elle-même.
Mais en même temps, deux des trois propulseurs qui coûtent extrêmement cher sont revenus sur Terre. Ils ont pu être récupérés, ils vont pouvoir être réutilisés. Et ça, c'est un atout économique immense pour SpaceX, non ?
C'est vrai que SpaceX est en train d'explorer la voie de la réutilisation. Pour l'instant, il y a eu des retours et des réutilisations une fois chaque fois. Donc ça, c'est vrai que c'est une avancée technologique. Maintenant, il reste à voir que ça a un vrai intérêt économique, ça reste à démontrer. De notre côté, on n'est pas en reste, bien sûr, parce que notre stratégie, c'est d'être présent sur tous les secteurs du spatial. Et donc, c'est pour cela que le CNES, dès qu'on a entendu parler de réutilisables, il y a de cela 3 ans, a lancé le développement du moteur Prometheus, qui est un moteur qui a vocation à être réutilisable, du démonstrateur Callisto, que nous ferons voler pour la première fois en 2020 en Guyane. Et puis, s'il est avéré que le réutilisable est une voie à poursuivre, eh bien nous serons prêts. Pour l'instant, ça reste à démontrer.
Ça veut dire que l'arrivée sur le marché spatial de ces nouveaux acteurs du monde numérique a changé votre stratégie. Est-ce que finalement, cette concurrence a boosté ou va booster l'industrie spatiale française et européenne ?
Vous savez, je crois que l'industrie spatiale française et européenne n'a pas attendu l'arrivée de New Space pour faire la course en tête. Nous excellons dans de nombreux domaines. Ariane a dominé le marché des lancements commerciaux pendant de nombreuses années et aujourd'hui est toujours en très bonne position. Dans le domaine scientifique, le monde entier a parlé de Rosetta Philae. D'ailleurs, la NASA a reçu des lettres de remerciement parce que les gens ne savaient pas que c'était une réussite de l'Europe. Puis si on regarde devant nous, eh bien, le 3 octobre, notez cette date dans vos agendas, puisque dans le cadre d'une coopération que nous avons avec le Japon, nous allons déposer sur l'astéroïde Ryugu le robot franco-allemand mascotte. Un peu plus tard, nous serons sur Mars avec les Américains. Nous avons une industrie des satellites de télécommunication qui est au meilleur niveau mondial. Donc c'est vrai qu'il y a des changements dans le monde entier, mais c'est vrai aussi que nous nous adaptons et le CNES, de ce point de vue-là, a mis l'innovation en tête de sa stratégie et je crois que ça paie bien.
Carole Barthélémy, dans votre livre « Kourou 5e Nord », vous retracez l'épopée du Centre spatial de Guyane qui fête cette année ses 50 ans. On s'y rend tout de suite grâce à un document d'archives de l'INA. Nous sommes le 9 avril 1968.
À 10 000 km de la France, sur 90 000 km carrés, voici la jungle guyanaise. C'est là, au bord de la mer, à 60 km au nord de Cayenne, que le Centre national d'études spatiales a décidé d'implanter le Centre spatial guyanais, champ de tir entièrement civil pour les expériences spatiales françaises. La décision de construction a été prise en 1964, les débuts des travaux en 1966. Voici pour la ville de Kourou où nous en sommes aujourd'hui. Sur l'aire de lancement des fusées-sondes, voici Véronique AGI, 182e du nom, avant-dernière de sa série. C'est une fusée sonde qui pèse 1,5 tonne, qui fonctionne à l'essence de térébenthine et à l'acide nitrique. Elle mesure 8 mètres de haut, sa pointe technique mesure 2,50 mètres et peut monter à l'altitude de 150 km. Au PC de lancement, les techniciens aussi se préparent. Ici, le directeur du lancement, M. Kahn, qui vérifie que tout se déroule normalement.
Attention. Top. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un feu.
Pour le directeur du centre, ça représente quand même une réalisation que nous avons tous souhaité et espéré. Tous mes collaborateurs voient en ce jour un virement très net. Jusqu'à maintenant, nous ne faisions que construire, parce que maintenant, nous sommes tournés vers la réalisation. Et chaque lancement sera pour eux l'aboutissement de tous leurs efforts.
Carole Barthélémy, est-ce que le général de Gaulle, qui décide en 1961 de lancer un programme spatial français et vient annoncer à Cayenne en mars 64 que c'est en Guyane que sera installé un champ de tir opérationnel, est-ce que le général de Gaulle était un visionnaire ?
Il semblerait manifestement, puisque c'est vraiment né de sa décision d'établir un programme spatial français qui fait que la France et l'Europe spatiale sont où ils sont aujourd'hui.
Et pourquoi ce choix de Kourou en Guyane ? Quels étaient les atouts à l'époque de la Guyane ?
Alors, 16 sites ont été passés au crible. Il a d'ailleurs créé le CNES pour trouver en premier lieu le nouveau site de lancement. Et dans tous les critères qui étaient demandés au site de lancement, la Guyane remporte le défi haut la main et a commencé par sa position. À 5 degrés nord, l'effet de fronde naturel de la Terre donne un gain de vitesse au lanceur, qui n'est pas négligeable du tout. Et donc, ils sont beaucoup plus performants. À lanceur donné, ils vont lancer une masse plus importante depuis l'équateur que depuis n'importe où ailleurs. Ensuite, la Guyane était un département français politiquement stable, avec une large ouverture sur l'Atlantique, qui lui permettait de lancer dans toutes les directions pour la plupart des missions spatiales. Et enfin, son sol se prêtait particulièrement bien à l'implantation de fondations nécessaires par le spatial.
Jean-Yves Le Gall, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 50 ans d'épopée spatiale sur ce petit bout de France en Amérique du Sud ?
Je dirais que je retiens finalement trois choses. La première, c'est le succès technologique qui était absolument... je dirais pas forcément prévisible parce que, évidemment, je n'étais pas à l'époque, mais lorsqu'on regarde les images d'époque, lorsqu'on voit les pionniers qui ont débarqué, récemment on a fêté les 50 ans du CSEG, certains étaient là au début, eh bien, il n'y avait rien, et donc à partir de là, on a réussi à construire, au-delà d'une base spatiale, une véritable usine qui fabrique des éléments de fusée sous l'équateur. Donc ça, c'est un incontestable succès technologique. Le deuxième message que je retiens, c'est le succès commercial, parce que la Guyane, finalement, Kourou a mis la Guyane sur la carte des mondes de l'espace aujourd'hui, dans l'industrie spatiale, dans le monde entier. Quand vous dites Kourou, tout le monde sait où ça se trouve et tout le monde sait où est la Guyane. Et puis le troisième aspect qui est peut-être finalement le plus intéressant, c'est l'aspect humain, parce que aujourd'hui, eh bien, grâce à la Guyane, on emmène sur ce morceau du territoire français sous l'équateur des gens qui viennent du monde entier, qui viennent construire des éléments de fusées. Donc ça, ce sont des Européens, des Russes, puisque nous avons mis un pas de tir de Soyouz en Guyane, des clients qui viennent du monde entier, et in fine, ça marche bien, on a derrière nous 50 ans de succès, on va continuer, les projets sont multiples, il y a un très grand enthousiasme, je pars demain pour le lancement des derniers satellites de la première génération de Galiléo, un autre grand succès européen, donc je crois que vraiment la décision qui a été prise par le général de Gaulle à ce moment-là était vraiment une décision d'un grand visionnaire. Et aujourd'hui, on en récolte les dividendes.
Alors justement, vous parlez des années qui viennent. Quelle est pour vous, qui le présidez, la mission prioritaire du CNES ?
La mission prioritaire du CNES, c'est de continuer à porter haut, si vous voulez, les couleurs de l'espace en France, en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, il est clair que c'est la France qui tire la politique spatiale européenne vers le haut. On le voit à l'Agence spatiale européenne, on le voit à la Commission européenne. Nous sommes dans tous les programmes. Le spatial, c'est aussi une formidable carte de visite. Il ne se passe pas un déplacement du président de la République ou du Premier ministre partout dans le monde sans que nous y soyons, parce que nous avons des accords tous azimuts et des coopérations partout. Je parlais tout à l'heure de Mars avec les États-Unis. Nous sommes à la pointe de ce qui se fait pour l'exploration de Mars.
Alors justement, la sonde InSight est en train de voler vers la planète rouge.
Oui.
Elle devrait s'y poser le
26 novembre vers 20h. Nous l'avons lancée le 5 mai et à bord d'InSight, le cœur d'InSight, c'est un sismomètre développé par le CNES à Toulouse avec une PME française Soderne à Limeil-Brévan dans le 94. Et InSight avec SEIS, donc ce sismomètre, va écouter battre le cœur de Mars. Parce qu'on sait que Mars a été habitable. La question est de savoir si Mars a été habité. Et pour cela, bon, c'est un raisonnement scientifique un peu compliqué, mais il faut savoir pourquoi toute l'eau qu'il y avait sur Mars a disparu. Et pour cela, il faut savoir si le cœur de Mars est liquide ou solide. Et ça, c'est SEIS qui va nous donner la réponse. C'est absolument extraordinaire.
Alors en même temps, les satellites qu'Ariane place en orbite sont souvent des satellites utiles, entre guillemets. Est-ce que c'est plus difficile de faire rêver le grand public avec des satellites utiles? Vous pouvez nous parler par exemple de Merlin et Microcarb?
Merlin et Microcarb, c'est la réponse française à la question de la lutte contre le changement climatique. Le CNES a pris une part très importante dans le succès de la COP21. Il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse au climat, sur les 50 variables climatiques essentielles qui permettent de décrire le climat, 26, c'est-à-dire plus de la moitié, ne peuvent être observées que par les satellites. Ce sont les satellites qui ont mis en évidence l'augmentation de la température du globe, l'augmentation du niveau des océans, notre coopération avec les États-Unis, la série des Jason, Topex, Poséidon. Et maintenant, les satellites vont permettre de faire des sortes de cartes des émissions de gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre qui sont responsables de l'augmentation de la température du globe, eh bien, il y a le gaz carbonique et le méthane. Et c'est pour cela que nous allons lancer Microcarb, qui va faire une sorte de météo du gaz carbonique, et Merlin, une météo du méthane. Et là aussi, le spatial apporte des réponses précises à des enjeux qui concernent l'humanité tout entière.
C'est pour ça que vous les appelez les vigiles du climat.
Les vigies du climat qui vont absolument observer le climat et la façon dont les choses se passent.
Jean-Yves Le Gall, à quelle échéance verra-t-on, selon vous, des hommes mettre le pied sur Mars ?
Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de répondre qu'on ne sait pas bien, parce que bon, je ne crois pas au projet qu'on annonce des milliardaires qui racontent que c'est dans 2 ou 3 ans. La mission vers Mars, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut 6 mois pour y aller, rester 9 mois sur place, revenir pendant 6 mois. Alors récemment, donc, InSight nous a envoyé une photo prise à 5 millions de kilomètres de la Terre, où vous êtes au milieu du noir. Donc vous imaginez aujourd'hui les astronautes, le plus loin qu'on soit allé, c'est sur la Lune. Et quand ils étaient autour de la Lune, ils voyaient toujours la Terre. Quand ils sont dans la station, ils sont à 300 km de la Terre. Là, il faut partir pour 2 ans. Ça veut dire des enjeux physiologiques qui ne sont pas évidents. On n'est jamais resté plus d'un an dans la station. Des enjeux psychologiques aussi qui sont très forts. Des enjeux liés au bombardement cosmique qu'on n'a pas lorsqu'on est en orbite autour de la Terre. Donc une mission très très difficile. Et aujourd'hui, la NASA travaille sur ce projet qui s'appelle Journey to Mars, qui est l'idée d'envoyer une sorte de mini-station spatiale. La station en orbite autour de la Terre fait 400 tonnes. Là, il s'agirait d'une station de 70 tonnes pour ce voyage de 2 ans. Mais on parle d'un horizon dans les années 30. Les années 30, donc, qui sont à venir, ce qui veut dire au minimum dans 15 ou 20 ans. Auparavant, ça me semble quand même très compliqué.
Est-ce que ce serait plus facile d'envoyer des hommes se poser sur des satellites naturels de Mars ?
On envoie une petite mission avec les Japonais qui s'appelle MMX et qui va se poser sur Phobos. Phobos, c'est un morceau de Mars qui a été probablement arraché lors d'une collision cosmique et qui est en orbite à 6000 km d'altitude. L'avantage de Phobos par rapport à Mars, c'est qu'il n'a pas d'atmosphère. Donc on peut se mettre en orbite de Mars, on va se poser sur Phobos et puis on repart repartir. Descendre sur Mars, c'est très compliqué. On l'a vu, il n'y a pas certaines sondes qui ratent leur entrée atmosphérique. InSight, ça sera le 26 novembre au soir, on dit 7 minutes de terreur, c'est-à-dire la rentrée atmosphérique. Il faut se poser, ensuite il faut ressortir, ça ajoute une difficulté supplémentaire. On ne peut pas exclure que la première mission martienne habitée soit seulement en orbite autour de Mars, un peu comme la première mission Apollo, dont on va bientôt fêter le 50e anniversaire. Vous vous souvenez qu'Apollo 8 avait passé Noël 1968, donc il y a 50 ans, en orbite autour de la Lune, et Apollo 11 s'était posé sur la Lune seulement 7 mois plus tard. Donc on peut imaginer que la première mission martienne sera seulement en orbite autour de Mars.
Vous avez déclaré que ce qui fait la différence aujourd'hui dans le spatial, c'est la rapidité. Est-ce que c'est pour cela que le CNES a décidé de miser sur les start-up ?
Bien sûr, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a une chance formidable que notre écosystème soit complété par des start-up, des gens qui ont envie de faire du spatial de façon un peu différente. Jusqu'à présent, on avait un écosystème qui marchait bien avec des universités, des laboratoires scientifiques, des agences spatiales comme le CNES, dont on ne dira jamais assez tout ce qu'elles ont apporté et tout ce qu'elles apportent à la conquête spatiale, et puis des industriels qui étaient essentiellement des grands groupes ou des PME. Et aujourd'hui, il y a un foisonnement de start-up parce que l'espace fait recette, et c'est pour cela que j'ai décidé que le CNES allait mettre en place un fonds d'investissement de l'ordre d'une centaine de millions d'euros qu'on appelle Cosmic Capital. On est en train de lever les fonds, ça fonctionnera à la fin de l'année, pour justement permettre à ces start-up qui arrivent déjà parfois avec des idées totalement différentes, avec une approche tout à fait intéressante, bien pour leur mettre le pied à l'étrier.
Merci beaucoup Jean-Yves Le Gall, président du CNES, d'avoir été avec nous. On va continuer à parler conquête de l'espace avec Carole Barthélémy et Jacques Arnoux après une pause musicale. David Bowie, Life on Mars, évidemment.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars?
Carole Barthélémy, vous êtes toujours avec nous en duplex de Toulouse. Votre livre « Kourou 5e Nord » retrace avec de multiples photos à l'appui les étapes qui ont fait de Kourou le port spatial de l'Europe. Auparavant, on sera passé de la fusée-sonde Véronique au lanceur de satellite Diamant jusqu'à ce 24 décembre 1979, premier tir de la fusée Ariane.
Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussé par les 250 tonnes des quatre moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. 2 minutes 30 après le décollage de Kourou, Ariane se trouve déjà à 50 km d'altitude. Quelques secondes plus tard, c'est l'allumage du second étage que suivent avec précision les caméras de poursuite du centre spatial guyanais. 18h20, cri de victoire dans le centre spatial de Kourou. Le troisième étage est parfaitement allumé. Pour son premier tir de qualification, c'est un succès complet pour Ariane. Une prouesse technique fantastique et remarquable des ingénieurs français et des Européens.
Carole Barthélémy, qu'est-ce que la première fusée Ariane et ses petites sœurs ont apporté à l'Europe spatiale ?
Le succès. Ariane, c'est une famille de lanceurs. C'est d'entrée de jeu, c'est un concept vraiment d'une famille de lanceurs, où l'Agence spatiale française, le CNES, a eu l'audace d'aller la vendre. C'était tout à fait nouveau. Ils ont créé Ariane Espace juste en 1980, donc juste après Ariane 1, pour pouvoir se donner les moyens de passer à une production industrielle pour atteindre un objectif commercial. Et à chaque fois, Ariane, la nouvelle version, était envisagée, budgétée, conçue, avant même que la version précédente ait volé. Donc Ariane, c'est une série d'innovations permanentes.
Combien de satellites ont été lancés par une fusée Ariane ?
Par une fusée, je ne saurais pas vous dire.
Non, je veux dire par une fusée Ariane au fil des ans. Depuis
Alors, le lancement double a été tout de suite inventé. Donc Ariane a été la première et la seule pendant longtemps fusée capable d'emmener deux satellites simultanément en orbite de transfert géostationnaire.
Mais aujourd'hui, les satellites géostationnaires sont très lourds. Ils peuvent atteindre jusqu'à 7 tonnes, je crois.
Mm-hmm, exact.
Et du coup, Ariane 5 n'a pas la capacité d'en lancer deux en même temps.
Alors, pour l'instant, après, il y a Ariane 6 qui va arriver. Les performances annoncées, de ce que j'en sais, ne prévoient pas de lancement double à 7 tonnes le satellite. Par contre, on peut envoyer un satellite de 7 tonnes et un plus modeste à 3 tonnes.
Donc, c'est ça le défi pour Ariane 6, hein, dont le premier vol est prévu en 2020 ?
Le défi d'Ariane 6, c'est de faire en sorte que Ariane reste concurrentielle et attractive sur le marché des lancements commerciaux. Face à une concurrence, vous l'avez évoqué plus tôt, très importante, nouvelle. Et donc Ariane 6 va devoir mutualiser toutes les expériences de l'Europe spatiale, que ce soit techniquement sur le lanceur, mais également sur les installations sol en Guyane, puisque les deux vont de pair.
Et tout à l'heure, on parlait d'Elon Musk, le fondateur de SpaceX, qui casse les prix. Est-ce que ce n'est pas difficile pour Ariane Espace quand même de rester concurrentiel, comme vous le disiez ?
C'est pas évident. Ce sont deux pays, deux cultures complètement différentes. Monsieur Le Gall, il y a deux ou trois ans, disait SpaceX, il fait rentrer un bout de tôle dans un hangar et de l'autre côté du hangar sort une fusée. Toute la production, tout est centralisé et au-dessus, ils ont les locaux commerciaux. L'Europe spatiale, c'est plusieurs pays qui se partagent la fabrication de lanceurs. Donc déjà, la chaîne n'est pas du tout la même. Et ensuite, le contexte commercial et même gouvernemental n'est pas le même non plus.
Alors comment expliquez-vous que l'Europe, qui a tant de mal à s'entendre au niveau politique, économique, ait réussi à le faire dans le domaine spatial ?
Je vois l'espace comme un domaine extrêmement fédérateur. Et si on regarde juste l'histoire de l'Europe spatiale, finalement, c'est là où elle est le plus performante, c'est dans l'adversité. Donc tous les moments durs qu'ont traversé l'Europe spatiale, à chaque fois elle a su se ressouder et travailler ensemble pour sortir un lanceur fiable et performant.
Ok. C'est
à nouveau ce qu'elle fait avec Ariane 6.
Vous écoutez RFI autour de la question.
La musique d'Avatar, le film de James Cameron. Jacques Arnoux, vous êtes philosophe et historien des sciences. Vous êtes aussi chargé des questions éthiques au CNES. Et vous publiez un petit essai passionnant, « Oubliez la Terre, la conquête spatiale 2.0 » aux éditions Le Pommier. Pourquoi est-ce que cette nouvelle conquête spatiale nous concerne tous ?
Bien parce qu'il faut se rappeler de ce que nous venons d'entendre. L'espace depuis donc plus de 50 ans et à Kourou depuis 50 ans nous concerne tous, même si Kourou nous semble loin, même si l'espace nous semble un peu moins loin, ce n'est que 400 km au-dessus de nos têtes, eh bien nous avons recours tous les jours en permanence à des techniques spatiales. Comme vous le disiez, même des techniques ne font plus rêver. Nous déplacer, communiquer, prévoir la canicule qui continue, tout cela, c'est derrière, il y a des techniques spatiales, nous l'oublions, et tant mieux. Et en même temps, comme M. Le Gall a rappelé, nous avons aussi des projets d'exploration, d'aller sur Mars ou ailleurs, qui, eux, nous font rêver. Et donc, tout ça nous concerne directement. Et la manière dont ces nouveaux acteurs, qu'on appelle les acteurs de New Space, sont en train de préparer l'espace de demain, cette manière-là va aussi nous concerner. Parce que ce qu'ils proposent, ce sont les mêmes choses, des techniques pour vivre au quotidien, mais aussi des techniques peut-être pour explorer l'espace. Alors, est-ce que leur manière d'aborder l'espace de demain est compatible avec la manière dont nous, aujourd'hui, nous abordons l'espace ? C'est pour moi là l'enjeu de ce qui se passe en ce moment.
Alors Jean-Yves Le Gall, tout à l'heure, paraissait assez dubitatif sur les projets à court terme ou les ambitions à court terme d'Elon Musk. Le patron de SpaceX a relancé quand même le rêve de conquête spatiale. Il est devenu un acteur de premier plan du secteur. Est-ce que vous pensez qu'on doit quand même prendre au sérieux son projet de construire une fusée tellement puissante qu'elle pourra emporter sur Mars une centaine de passagers, et ce, dès 2025 ?
Ce qui est certain, c'est que l'idée qu'il élabore, qu'il a présentée il y a déjà 2 ans, donc d'aller coloniser Mars avec une énorme fusée...
Oui, qu'il appelle... alors, son nom, c'est Big Falcon Rocket, et il l'a rebaptisé...
The Big Fucking Rocket.
Voilà.
Enfin, tout ça étant entre guillemets, bien sûr.
Encore de la
surtout
communication.
Sur RFI. non, mais la réalisation, Monsieur Le Gall le disait, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça sera réalisé? Tout ça reste encore plein de points d'interrogation. En revanche, l'esprit qui est derrière et l'enthousiasme que ces projets suscitent au milieu de nos sociétés, en particulier auprès de la jeune génération, cet enthousiasme est bien concret. Et en même temps, il porte un certain nombre de valeurs, un certain nombre aussi de questions que nous devons dès aujourd'hui poser. Il y a des choses qui paraissent aujourd'hui évidentes dans le monde du spatial. Et quelque part, c'était évoqué avec la question de la coopération. L'espace, et c'est vrai, depuis plus de 50 ans maintenant, est un lieu où, de manière assez étonnante, parce que l'espace naît en pleine guerre froide, eh bien, dans ce contexte-là, l'espace offre aux grandes nations la possibilité de coopérer, de ne pas se limiter à un esprit de compétition. La compétition demeure, nous le voyons bien, SpaceX est un concurrent, mais la compétition demeure et en même temps, depuis presque 60 ans, petit à petit, se mettent en place des coopérations entre des États qui ne s'entendaient pas. La station spatiale internationale fait vivre dans un même lieu des Russes, donc ex-soviétiques, des Américains et encore une douzaine de nations autour. Donc,
pourquoi est-ce que les Chinois manquent à l'appel ?
Parce qu'il faut un peu plus de temps pour que les Chinois rentrent, ne serait-ce que parce que vous connaissez les tensions entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de mal à faire entrer les Chinois dans ce concert des nations spatiales, parce qu'il y a des contraintes de brevets, de sensibilité des technologies. Mais tout le monde, y compris les Américains, veulent qu'à terme, tout cela puisse avancer dans ce même esprit de coopération.
La coopération scientifique qui marche bien.
Et mais combien de fois dans l'histoire, la coopération scientifique a été à l'avant-garde d'une autre forme de coopération? Combien de fois? Depuis... Je ne dis pas que depuis les savants existent, mais les savants ont toujours eu ce chic de dire « Ok, il y a des frontières politiques qui existent, mais nous voulons que la connaissance soit, on va dire aujourd'hui, internationale, soit globale, soit commune. » Et cela marche encore aujourd'hui. Donc il faut absolument s'interroger sur la manière dont, pour revenir à votre question, les acteurs du New Space intègrent ou pas cette dimension-là. Parce que derrière le New Space, ce qu'il y a de... peut-être plus présent qu'auparavant, c'est quand même le côté business.
On va en parler dans un instant.
Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va sacrifier ou pas pour cet esprit ?
Alors, je vous propose maintenant d'écouter l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, disparu en mars dernier. En 2016, sur la BBC, il ne cachait pas son pessimisme sur l'avenir de la planète Terre. Une seule solution pour lui, l'espace.
Our genetic code still carries the selfish and aggressive instincts that were of survival advantage in the past.
Notre code génétique porte encore les instincts intéressés et agressifs qui avaient assuré notre survie autrefois.
It will be difficult enough to avoid disaster in the next 100 years, let alone the next 1,000 or 1,000.
Il sera assez difficile d'éviter un désastre dans les 100 années à venir, sans parler des milliers ou millions d'années suivantes.
Our only chance of long-term survival is not to remain inward-looking on planet Earth, but to spread out into space.
Notre seule chance de survie à long terme consiste à ne pas rester traîné sur la Terre, mais à se disperser dans l'espace.
The answers to these big questions show that we have made remarkable progress in the last 100 years.
Les réponses à ces grandes questions démontrent que nous avons fait des progrès remarquables dans la dernière centaine d'années.
But if we want to continue beyond the next 100 years, our future is in space.
Mais si nous voulons continuer au-delà de quelques centaines d'années suivantes, notre futur est dans l'espace.
That is why I'm in favor of manned, or should I say, personed, space flight.
Voilà pourquoi je suis favorable aux vols spatiaux habités.
The ultimate goal is a complete theory of the universe, and we are making good progress.
Le but ultime, c'est de posséder une théorie complète de l'univers, et nous progressons bien.
Thank you for listening.
Merci de votre attention.
C'est émouvant hein, d'entendre Stephen Hawking.
Bien sûr, et en même temps de constater que il partage avec d'autres scientifiques de son niveau et peut-être aussi sa génération un grand pessimisme par rapport à l'humanité et le sort de l'humanité. Après, à chacun de le partager aussi, ou au contraire, non pas de s'y opposer, mais de se dire comment pouvons-nous répondre à un tel pessimisme. Et pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que, pour reprendre simplement ce qu'il dit au début, il a une vision de, en disant, voilà, les gènes de la compétition appartiennent, enfin, sélection naturelle, etc., appartiennent à notre espèce. Et en même temps, l'humanité a su aussi développer d'autres comportements que des comportements de compétition. Nous venons d'en parler avec la coopération dont nous sommes capables. Donc, il y a un débat. Je veux dire que on peut très bien, ce qui est mon cas, respecter Stephen Hawking, en même temps, ne pas être totalement en accord avec ses idées, surtout celles qu'il a développées à la fin de sa vie. Et alors, c'est sûr que le rêve de quitter la Terre pour s'enfuir sur d'autres planètes est un rêve pas si ancien que ça dans l'histoire de l'humanité, mais en tout cas qui est aujourd'hui très présent et qui a été à l'origine de bien des projets astronautiques. Tchaïkovski, Constantin, donc le soviétique qui est à l'origine de l'art de naviguer, de l'astronautique moderne, était aussi un grand fervent de fuir la Terre pour d'autres raisons, sans doute plus spirituelles parce qu'il faisait partie du cosmisme soviétique. Mais il y a ce même désir de fuir. Est-ce que c'est raisonnable? Alors, je ne dis même pas est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable? Parce que fuir la Terre, évidemment, ce n'est pas pour les milliards d'habitants qui aujourd'hui l'occupent. Il n'est pas question de construire suffisamment de vaisseaux pour embarquer plusieurs milliards de personnes, parce que nous l'avons déjà, ce vaisseau. Et il s'appelle la Terre. Donc c'est à nous, si nous voulons fuir tous ensemble, en fait, il faut fuir, entre guillemets, la manière dont nous gérons aujourd'hui notre planète et en faire, si je puis dire, un vaisseau spatial plus performant. Et ça nécessite d'y mettre des moyens peut-être plus importants et plus de raisons que nous le faisons aujourd'hui. Ou alors, nous choisissons quelques-uns parmi nous.
Voilà, ça pose la question de l'élitisme, voilà. Parce que Elon Musk, il envisage, lui, un vaisseau avec donc embarqué à chaque fois 100 personnes, mais on en a pour
bien sûr, dans
des centaines d'années, des milliers d'années.
Bien sûr. Et la science-fiction, on l'a imaginé. Il faut toujours se retourner vers la science-fiction. Les auteurs de science-fiction sont aussi d'excellents analystes de la situation présente. Et donc, ça veut dire, et comme vous le dites, c'est de l'élitisme. Donc, et là, on rentre alors, tout à fait dans ce que, justement, Stephen Hawking vient de condamner, c'est-à-dire la sélection faite par la nature. Là, c'est une sélection, ça s'appelle de l'eugénisme, d'une forme ou d'une autre, ou une forme d'élitisme, où nous choisissons quelques humains qui ont les qualités que nous décidons comme étant les meilleures, et nous les envoyons pour survivre, je ne sais pas dans quel état, et je ne sais pas où. Il y a quelques années, à l'occasion de la COP21, l'ancien secrétaire général des Nations Unies l'a bien dit, à Paris, il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'une seule planète, et c'est sur cette planète-là que nous devons construire le futur de l'humanité.
Alors, où est-ce qu'on place le curseur entre volonté de faire du business, puisqu'il y a ceux qui veulent faire fortune dans l'espace en emmenant des touristes, justement, à 100 km d'altitude, par exemple, à des prix exorbitants. Et puis, il y a des projets plus ambitieux, on l'a dit, coloniser une autre planète. Donc, ça veut dire un aller sans retour, sans doute, pour bâtir un nouveau monde et sauver l'humanité. Est-ce que ça, c'est vraiment de la philanthropie, même de la philanthropie peut-être un peu naïve?
Il y a effectivement cette naïveté dans beaucoup de propos de ces entrepreneurs américains, mais je pense que ça fait partie de la culture américaine d'avoir cette espèce de se projeter dans l'avenir. Et comme disait un voyageur du 19e siècle qui découvrait les États-Unis, c'est aimer le pays à venir. Ils ont une espèce d'amour de ce qui va venir, quelque chose que nous avons un peu perdu en Europe. Donc il y a des côtés intéressants l'état d'esprit qu'aujourd'hui incarne quelqu'un comme Elon Musk. En même temps, il faut évidemment rester raisonnable. Et puis, la vieille Europe a aussi une capacité d'analyse et de critique philosophique que nous devons absolument ménager. Et surtout, se dire, qu'est-ce que nous voulons? Alors, moi, j'ai une position, et je crois que elle est partagée par d'autres, plutôt humaniste, en disant, c'est pas de l'élitisme. C'est savoir comment nous allons tous, ou en tout cas le plus grand nombre d'entre nous, construire ce futur. Et pas seulement pour quelques-uns et pour le profit de certains. Alors après, c'est une question d'équilibre. il ne faut pas non plus jouer le bien commun contre certains profits privés. Nous voyons bien aussi dans l'histoire que dans un passé relativement proche, il y a eu des initiatives assez analogues à celles qu'aujourd'hui quelqu'un comme Elon Musk met en œuvre dans ce rapport entre ce qu'on appelle public et privé. La construction du réseau ferroviaire américain était basée là-dessus. Il s'agissait de coloniser, en fait, alors contre évidemment des populations locales. Vous avez mis tout à l'heure la musique d'Avatar, c'est évidemment une illustration des dégâts d'une colonisation. Mais comment coloniser un nouveau continent comme les États-Unis, les jeunes États-Unis, le chemin de fer était une possibilité. Eh bien, il y a eu un accord entre l'État, ce jeune État des États-Unis, et des compagnies privées. Quelques décennies plus tard, et nous allons fêter le centenaire cette année, un jeune industriel français, toulousain, était en train de lancer la première ligne aérienne, dont Air France va naître, c'est Pierre-Georges Latécoère. Il crée un accord entre le privé, lui, et l'État, qui est la France. Pourquoi aujourd'hui ne pas construire aussi des choses dans ce même ordre, dans l'espace où le bien commun est respecté, et en même temps l'enthousiasme du privé, qui a été décrit tout à l'heure, est lui aussi mis en œuvre.
On va faire une nouvelle pause musicale avec un artiste que vous avez choisi, Jacques Arnoux, c'est Leonard Cohen. Je ne sais pas s'il a chanté l'espace, mais alléluia, on ne s'en lasse pas.
Autour de la question.
There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Leonard Cohen, alléluia. L'espace, nouvelle frontière. Pour cela, certains sont prêts à prendre tous les risques. On se souvient dans le film Apollo 13 de la petite phrase prononcée par l'acteur Ed Harris, qui joue le rôle de Gene Kranz, le directeur des vols. Failure is not an option. L'échec n'est pas une option. Aujourd'hui, Jacques Arnoux, Elon Musk prend l'exact contre-pied de cette formule.
Effectivement, il explique que failure is an option. Pour la raison qu'il explique, c'est que sans échecs, il ne peut pas y avoir d'innovation. Et il a même été jusqu'à faire, je crois, la présentation de tous les lancements sur lesquels il a échoué avant de réussir à lancer ses Falcons. C'est un état d'esprit qui est assez propre aux États-Unis, où on vous évalue non pas sur votre réussite, mais sur le nombre d'essais que vous avez pu tenter avant de réussir. Et on vous critiquera si vous n'avez pas tenté quelque chose par peur de l'échec. Et dans ce sens-là, c'est là qu'en dehors de l'aspect concurrentiel du New Space, il s'agit de se dire quels sont les leçons que nous pouvons tous retenir, faire éventuellement nôtre de ces entrepreneurs, en l'occurrence du spatial, mais une fois encore, il y a d'autres types d'entreprises aujourd'hui avec ce type d'enthousiasme, cette capacité à prendre le risque. Évidemment, et c'est là qu'il y a des curseurs qui peuvent changer, entre les risques pris par des privés, dans un contexte privé, ou même par des personnes, et le risque que peut prendre un organisme public, je pense au CNES, je pense à un État, le curseur n'est pas nécessairement mis au même endroit. Donc là, il y a aussi une évaluation, une capacité à débattre publiquement sur ce que nous sommes prêts ou pas à faire.
Carole Barthélémy, vous qui avez étudié l'épopée du centre spatial de Kourou et vous avez passé une dizaine d'années là-bas, est-ce que le souci de prudence l'a toujours emporté sur l'impératif de compétitivité ?
De ce que j'en ai vu, oui. Oui, oui, tout est vraiment mis en œuvre. La sécurité est vraiment le souci numéro un, la priorité prioritaire.
En même temps, est-ce que ce n'est pas moins important à Kourou parce qu'on n'y prépare pas de vol habité pour l'instant ?
On n'y prépare pas de vol habité, mais en même temps, il y a quand même pas, il y a 6 établissements qui sont classés Céveso seuil haut. Donc il y a quand même une activité spatiale qui est présente, avec des produits qui peuvent être dangereux. Donc la sécurité, elle est au quotidien dans tous les sites, que ce soit des sites de production ou d'assemblage. Mais la sécurité est indispensable. C'est la sécurité pour les salariés du centre, pour les clients qui viennent préparer leurs satellites et les lancer, et bien évidemment pour les Guyanais qui vivent autour du centre spatial.
Jacques Arnaud, une autre question se pose, à qui appartient l'espace ? Parce qu'il y a un traité qui date de 1967, un traité onusien, qui stipulait que rien dans le cosmos n'appartenait à quiconque. Est-ce que ce traité aujourd'hui est totalement dépassé ?
Pas du tout. D'abord parce qu'il existe. Et ça c'est important, et c'est juste de le rappeler, que l'espace n'est pas hors la loi. On n'est pas au Far West, c'est pas la lutte permanente. Il y a eu, comme vous le rappelez, un traité qui a été, et avant d'être signé, qui a été élaboré. Ça a pris des années pour se mettre d'accord sur les principes de la manière dont les humains allaient se comporter dans l'espace. Puisque vous voyez, en 67-68, nous étions encore au début, bien sûr, la Lune c'était quelques années plus tard, à peine 2 ans plus tard, mais tout de même, nous sommes tout à fait au début de l'entreprise spatiale, et les valeurs qui sont à ce moment-là mises en avant, ou les fondements du spatial, c'est la non-appropriation. Personne ne peut se revendiquer comme possédant quoi que ce soit dans l'espace. C'est un patrimoine commun de l'humanité, ou pour le moins bien commun de l'humanité, et le libre accès.
Mais, alors, il y a déjà de multiples entorses à ce traité, puisque vous-même l'avez enfreint, puisque vous êtes propriétaire d'un lopin de lune, tout comme George Lucas, Tom Hanks ou Harrison Ford.
Alors, il y a des petits malins qui, depuis très longtemps, mais ça ne date pas de l'ère spatiale, ça date de plusieurs siècles déjà, des petits malins qui ont décidé de se déclarer propriétaires de l'espace, bon, en pensant que c'était le premier à le faire. En général, ils n'étaient pas les premiers. Et puis, quand ils étaient encore plus malins, ils ont commencé à le vendre. Donc, vous pouvez effectivement aller sur Internet et acheter un lopin de lune. Ce que j'ai fait pour les causes des conférences, à force de parler des autres propriétaires, j'ai voulu en être aussi.
Mais ça, c'est le gag, effectivement. Mais le sujet de l'exploitation minière des astéroïdes.
Alors, voilà,
par exemple, c'est une vraie question.
C'est une vraie question parce que depuis plus de 2 ans, eh bien, les États-Unis, pour promouvoir des activités, pas celles de M. Musk, mais celles d'autres entrepreneurs, qui se disent dans quelques années, nous allons exploiter les ressources minières de l'espace sur les astéroïdes, peut-être sur la Lune, eh bien, les États-Unis se sont portés garants par rapport à ces entreprises en disant, si vous venez chez nous, sur le territoire américain, nous vous assurons que vous pourrez tirer profit. Et ce faisant, donc, ils s'opposent aux traités qu'ils ont eux-mêmes signés ou avec lesquels ils étaient en accord. Donc il y a des discussions aujourd'hui au niveau juridique extrêmement féroces, savoir quel va être le futur. Mais vous voyez, ce futur ne se crée pas sur rien, il se crée sur des valeurs pour lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui. Donc il faut à nouveau, comme je le disais, débattre.
Merci à nos 3 invités de nous avoir fait voyager dans l'espace. Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Jacques Arnaud, philosophe et historien des sciences. Vous publiez « Oubliez la Terre, la conquête spatiale 2.0 » aux éditions Le Pommier. Carole Barthélémy, merci d'avoir été avec nous en duplex de Toulouse. Et merci à nos confrères de France Bleu Occitanie qui ont permis cette liaison. Vous êtes l'auteur de « Kourou 5e Nord » paru au Cherche Midi. Merci également à Sophie Janin qui a réalisé cette émission et à Caroline Fillette qui m'a aidé à la préparer. On se retrouve demain pour parler archéologie et nouvelles technologies. D'ici là, restez curieux.